Oui, la dernière fois quand je vous ai parlé de l'histoire de Samuel, hein, j'ai parlé des différents personnages. Peut-être vous vous rappelez, j'ai parlé un petit peu d'Elkana, de Pénina, hein, la femme un peu méchante, Anne, de Dieu et de Élie. Et pour la suite de l'histoire, parce que ça, c'est la suite de la naissance de Samuel. Mais je vais prendre comme base quatre phrases de cette histoire. Quatre personnes qui ont dit quelque chose. Il y a Anne qui a dit, le Seigneur m'a donné ce que je lui ai demandé. À mon tour, je le donne au Seigneur. Il y a une phrase de Dieu, ou deux mots, Samuel, Samuel. Il y a une phrase de Samuel, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et une phrase de Élie, tout à la fin, où il dit, il est le Seigneur, il peut faire ce qui lui semble bon. Et je pense que je vous ai parlé que Samuel vient d'un contexte difficile et il atterrit dans un contexte très difficile. Ni la famille d'Elkana, ni la famille d'Élie était la famille idéale. Ah, on peut se demander, elle existe. Est-ce qu'elle existe? En fait, la famille idéale. Si vous voulez la trouver, je ne sais même pas où, il faut la chercher. C'est difficile à trouver, même dans la Bible. Si je parle de famille idéale, je trouve peut-être un exemple. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Je dis après ce que j'ai. Une famille idéale dans la Bible. Ouf, ah non. Là, c'est que tromperie et moi, je t'aime, moi, je t'aime pas. Et après, le second. Ancien Testament, hein, parce que Nouveau Testament, il n'y a pas beaucoup de familles qui. Ils sont 8 personnes. Non. Non, David. Non, non, non. Non. Les parents, 3 fils et 3 femmes. Noé, voilà. Après. Voilà, il y a un petit truc où lui, il couche nu et meuf. Voilà, c'est la seule chose qu'on trouve. Autrement, je pense que c'était une famille liée qui, ensemble, ils avaient un projet, ils ont fait ce projet ensemble jusqu'à la fin. Voilà, cette famille-là, autrement, je n'ai pas trouvé un. Voilà. Pourquoi une famille idéale n'existe pas? Oh, n'existe pas. Oui, c'est tellement difficile à trouver parce que nous sommes tellement différents. Hein, aussi dans le couple, avec notre caractère, avec notre volonté propre. Une famille est aussi composée de différentes générations, hein, qu'on n'a pas toujours le même avis, la même façon de voir les choses. Voilà, mais voilà. Passons à Anne. Hein. Anne a dit, vous rappelez l'histoire, hein? Quand elle n'avait pas d'enfant, elle a prié, elle a dit, je vais le donner, dès que tu me donnes un enfant, je vais te le redonner. Et finalement, le Seigneur a écouté, et à la fin, elle dit, le Seigneur m'a donné ce que je lui ai demandé. Alors elle a vu ce fils. À mon tour, je le donne au Seigneur. Elle a demandé un enfant sur la base d'une promesse faites à Dieu. Si vous pensez à cette histoire, à ce que Anne a fait pour vous, qu'est-ce que vous admirez le plus à ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui pour vous est vraiment le plus étonnant ou le plus. Hein?
C'est un peu paradoxal parce que ce qu'elle rêve le plus au monde, c'est un fils, et puis une fois qu'elle l'a, elle le
donne. Hein? Hein?
Voilà.
finalement, je vais vous raconter, je pense, j'ai dit quelque chose qui n'est pas vrai la dernière fois. Elle avait encore deux autres fils et trois filles, quelque chose comme ça, après. Elle, parce que moi, peut-être, j'ai dit qu'elle n'avait pas d'autres enfants, mais elle avait d'autres enfants. Hein. C'est un... Samuel était que le déclencheur de... Voilà. Pour moi, c'est le fait qu'elle n'a fait aucun compromis. Même à... Elle a donné Samuel peut-être quand Samuel avait 6 ans. Et pendant les 5 et 6 ans, combien de fois elle aurait pu dire « Je fais... Oh là, il ne va plus penser à ça. » Parce que si moi, je donne une promesse et je réussis à tenir cette promesse à Dieu une semaine, je suis déjà hyper content. Waouh, je n'ai pas fait ça pendant... Mais Seigneur, c'est... Et elle, pendant 5, 6 ans, elle l'avait chaque jour. Et quand même, finalement, avec tout l'amour qu'elle a accumulé avec cet enfant, elle était prête à lâcher. C'est presque comme Anouk maintenant. Voilà. Mais il faut les... Il faut...
Ça dépend quel jour tu tombes.
Voilà. Je ne dis pas qu'elle n'était pas tentée. Je pense qu'elle était une femme comme toutes les autres femmes dans le monde. Mais une phrase comme ça, comme elle a dit, si le Seigneur m'a donné, je donne. C'est que des personnes qui sont vraiment passées par des moments difficiles qui peuvent dire ça. Ceux qui ont vraiment vécu, comme Job. Le Seigneur m'a donné, le Seigneur a le repris, je loue le nom du Seigneur. Si moi je dis ça, les anges, ils rigolent, parce que je n'ai pas vécu ces choses-là. Mais un Job qui dit ça, une Anne qui dit ça, ça c'était vécu, hein. Ça c'était des souffrances, des années, hein, où tu vois le petit bonhomme qui enfin marche, et tu es tout content, et tu sais tout le temps, je dois les donner, je dois les laisser à un moment. Et donner à 3 ans ou à 5 ans, c'est égal, c'est toujours trop tôt de donner, toujours. Hein, cette capacité d'aller jusqu'au bout dans la promesse, c'est ça qui est tellement important. Mes limites dans mon investissement pour le Seigneur, je les place où? Dans mon engagement, je vais jusque où? Et maintenant, répondez pas n'importe quoi. Hein. Nous avons tous nos limites. Ne dites pas, moi je donne tout. Il y a une chanson, oui, prends tout Seigneur. Ce n'est pas vrai. Nous avons tous notre limite. Tout. Moi, tu peux dire, ah, je donne 2 soirées par semaine. Et le troisième, ah non, ça c'est déjà trop. Voilà, paf. Tu as fixé tes limites. Nous avons tous notre limite. Est-ce que nous sommes conscients de nos limites? Ah, je veux simplement nous encourager de réfléchir où sont ces limites dans ma vie, jusqu'où je suis allé pour le Seigneur. Et revoir ces limites peut-être sous l'optique du regard du Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Est-ce que j'ai bien choisi? Est-ce que je dois les élargir? Est-ce que, hein, jusqu'où je peux aller dans la situation où je suis, avec la famille que j'ai, avec mes engagements et tout ça, jusqu'où je peux aller sans me casser? Une deuxième personne, une deuxième phrase, c'est Samuel, Samuel. Hein, c'est Dieu qui appelle. Le Seigneur appelle. Il appelle pour chercher celui qui est perdu. Par exemple, Florian, le copain Ayasha. C'est quelqu'un qui est cherché par le Seigneur. C'est incroyable. Hein, il était à la colo, il a vraiment entendu le message du Seigneur. Et là, il travaille le week-end à une station de service. Il a deux collègues de travail et les deux sont chrétiens. Ah, et va... à l'église de Vandœuvre, et l'autre lui a déjà invité dans l'église de Stan faire la louange parce qu'il sait qu'il joue la guitare. Hein, c'est quand même quelqu'un qui est cherché par le Seigneur. Le Seigneur nous cherche. Mais il appelle aussi ses serviteurs, comme il a fait avec Samuel, quand il avait un message très important pour Élie. Et même si tu n'es peut-être pas forcément appelé pendant la nuit, même si ça peut arriver, le Seigneur nous appelle de façon la plus diverse. La question, est-ce que nous sommes prêts à écouter? Tu as déjà raté l'appel du Seigneur? Tu te demandes comment le Seigneur t'appelle, peut-être. Hein? Et je vous laisse un exemple à ma plus grande honte. Hein? Mardi, j'ai travaillé chez Tom. Et à un moment, j'ai enlevé la tapisserie, je crois. Et Tom et Alex sont partis. Et moi, j'étais encore seul avec l'ouvrier. Hein? Et l'ouvrier vient vers moi et il a pris n'importe quoi, un tournevis, et il le pose, le tournevis. Et il dit, donne à César ce qu'il y a à César. Il dit que ça. Et là, waouh, c'était comme l'appel du Seigneur. J'ai dit, ah, il faut dire quelque chose. Là, tu peux facilement sauter dessus. Ah, tu connais la Bible? Parce que c'est une citation biblique. Ah, j'aurais pu facilement commencer à, même si c'est que 5 minutes, parler avec lui de ce qu'il a dit là. Et je ne l'ai pas fait. Et après, j'ai réfléchi. J'ai dit, mais je suis tellement bête. Le Seigneur appelle Samuel. Et je n'ai pas écouté. Et encore aujourd'hui, je suis tellement désolé pour lui. Pourquoi je n'ai pas osé de dire quelque chose. Par ce texte, oui, Samuel, j'aimerais vous encourager de vivre votre vie là où vous êtes, fidèlement sous le regard du Seigneur. Il n'a pas mystère. Le réveil dans le bassin de Pompée commence avec nous. Nous sommes la clé. Ce n'est pas les autres la clé. Et je vais dire maintenant, ce n'est pas la pub qui est la clé. Ce n'est pas la sono qui est la clé. C'est nous qui sommes la clé. Est-ce que nous avons entendu le Samuel? Est-ce que nous avons entendu l'appel du Seigneur? C'était marqué à l'époque, la parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait un grand truc? Enfin, il parle à nouveau? Non. Pendant la nuit, il parle avec un enfant pour s'occuper d'une histoire de famille. Pas pour sauver tout Israël, mais pour s'occuper d'une histoire de famille, d'une histoire de fidélité. Ce n'est pas au monde, vous comprenez ce que je veux dire, hein, d'entendre l'appel de Dieu. Ce n'est pas au monde d'entendre l'appel de Dieu. C'est à nous d'entendre l'appel de Dieu. Est-ce que nous sommes prêts à dire, Seigneur, oui, je t'ai entendu. Samuel. Là où nous sommes, même au lit, le Seigneur peut nous parler, il veut nous parler. La phrase de Samuel, c'est la suite à cet appel. Hein. Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. Écoutez, peut-être le défi du 21e siècle. Hein. Bon, peut-être même de tous les siècles avant, hein, c'est possible. Pourquoi est-ce tellement difficile d'écouter? Christine a participé hier à une formation dans le cadre de son travail. Et ils ont dû faire ça parlait de communication et d'écoute. Et ils ont dû faire un petit exercice, deux à deux, et une personne a dû parler 2 minutes et l'autre seulement écouter sans rien dire. Elle dit, c'était tellement difficile. Déjà parler, mais aussi écouter. si vous êtes maintenant honnête. Là, là, maintenant, là. Est-ce que vous n'êtes pas déjà, pendant que je parle, parti ailleurs? Est-ce que vous avez déjà pensé à autre chose? Voilà, oui, certainement. Hein. Voilà, certainement. Voilà. Parce qu'elle a du mal à garder, à rester et à écouter. Combien de fois je me trouve devant quelqu'un, il me raconte quelque chose et je pense toute autre chose. Tellement je suis loin, loin, loin. Parfois, on peut comprendre, hein, parce que j'ai cherché Nicolas en Angleterre, à Nottingham, hein, et on est rentré dans la voiture. Et c'est quand même 12 heures de route. Hein. Il a commencé à parler et 12 heures plus tard, il a arrêté à parler. Pendant 12 heures, il parlait sans arrêt. Alors là, voilà, c'était, je ne sais pas où, parfois je dormais peut-être même, mais voilà. Hein, on a tellement du mal à écouter. Est-ce qu'on est vraiment intéressé par l'autre, hein, ce que l'autre veut dire? Pourquoi on a tellement de mal? Ah, c'est incompréhension, c'est, nos oreilles sont bouchées, manque de conviction, parfois, si on écoute la Bible. Vous savez, écouter la Bible ne sert strictement à rien si je ne le mets pas en pratique après. Strictement à rien du tout. Là, vous pouvez... Si vous lisez la Bible seulement pour lire, parce que ça ne sert à rien. Si vous ne faites pas après ce qui est marqué dedans. Après, il y a la question, est-ce que vraiment Dieu qui parle, hein, je vous dis, écoutez ce que Dieu veut dire, mais... Parce que quand Samuel était appelé, il ne savait pas qui c'est. Il a entendu une voix. Samuel, Samuel. Mais il ne savait pas que c'était Dieu. Et même Élie, vous savez, même Élie ne comprenait rien. Que après le troisième, quatrième fois, là, il a compris. Ah oui, voilà. C'est bien peut-être quelque chose. Alors, ne soyez pas trop dur avec vous, même si vous ratez parfois l'occasion d'écouter. J'étais vraiment dur avec moi parce que je n'ai pas aimé, que je n'ai pas osé te parler avec ce mec. J'étais dur avec moi. Je pense, mais ce n'est pas vrai. Mais voilà. Même Samuel, même Élie avaient besoin parfois deux, trois fois, d'être appelé pour parler. Ne soyez pas trop dur. Vous avez déjà certainement aussi remarqué combien vos pensées et vos idées bousculent pendant que vous priez. Oh, comme le matin, je suis à genoux ou n'importe comment, hein, tu es, et tu veux prier. Je pense, oh là là, je veux prier et j'ai jamais autant d'idées pour des trucs que pendant que je prie. Ça bouscule, ça vient, ça... Wow. Mais alors et on n'est pas, voilà. C'est ça. Exactement. Après, on peut se demander, oui, mais pourquoi Dieu a appelé Samuel comme ça, pendant la nuit, hein? Il aurait pu envoyer un ange, bon, Samuel, paille, je suis. Non, hein? Ça arrive quelquefois, hein, dans l'histoire. Mais c'est comme un peu comme Élie, mais l'autre, hein, est devant le Seigneur, tout seul avec lui, il n'est pas dans la tonnerre, il n'est pas dans le grand vent, il est dans le murmure. Et peut-être le Seigneur est beaucoup plus dans le murmure que dans le grand tonnerre. Nous, malheureusement, en tant qu'Église, en tant que chrétien, on cherche toujours le grand tonnerre. On cherche toujours le grand truc. Ah, le Seigneur, il faut que tu viennes, il faut que tu guéris, il faut que tu... Et le Seigneur est beaucoup plus souvent dans le petit murmure, dans le murmure d'un mec qui a dit « Donne à César ce qu'il y a à César ». Dans ces murmures-là est le Seigneur. Et là, on peut répondre. Là, on peut dire « Voilà, j'appartiens au Seigneur ». Et il y a Élie qui a dit, il est le Seigneur, il peut faire ce qui lui semble bon. J'ai jamais su vraiment interpréter cette phrase. Pour moi, Élie était toujours presque un raté comme père, avec les enfants qu'il avait, etc. Est-ce qu'il a dit ça comme fatalité? Il fait de toute façon ce qu'il veut, qu'est-ce que je veux moi? Est-ce qu'il est dit comme résigné? Je peux de toute façon rien faire. Et il s'accepte ce que Dieu dit? Ou est-ce que c'est même une expression de confiance? Ce n'est pas évident de savoir comment il faut prendre cette phrase-là. Je l'ai plutôt plus comme négatif, mais pas aujourd'hui. Pour aujourd'hui, pour là, ces 5 minutes, je le prends comme une phrase de pleine confiance. Il est le Seigneur. Il est le Seigneur. Il peut faire ce qui lui semble bon. Il est le Seigneur. Et je sais que je suis... Attends. Qui je suis... Ah, pardon. Et je sais qui je suis et je ne peux rien faire qu'accepter sa parole et son jugement. Moi, j'ai l'impression avec les pertes des autorités en général aujourd'hui, nous avons aussi perdu un peu l'autorité de Dieu. Nous voulons tout discuter. Et nous pensons vraiment que ça change quelque chose. Nous pensons vraiment que si moi, Jean-Pierre, dis quelque chose là parce que je ne suis pas d'accord avec Dieu, que ça change dans l'univers que nous sommes. Le potier ne fait-il pas avec l'argile ce qu'il veut? Il est le Seigneur. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ma discussion. Ce n'est pas mes idées. Combien de fois on a discuté? Oui, qui est sauvé, qui n'est pas sauvé. Ce n'est pas à moi de juger. Il est le Seigneur. Ce n'est pas mes arguments qui changent quoi que ce soit. Il est le Seigneur. Remarquez que Élie n'essaie même pas d'argumenter. Il va disparaître avec toute sa famille. Il n'essaie même pas de dire, « Mais Seigneur, j'étais 40 ans, j'étais fidèle. Je n'ai pas fait exprès. Les enfants sont devenus comme ça. C'est pas moi qui a... » Il n'essaie même pas d'argumenter. Il n'a rien d'autre à dire. J'aimerais vous dire quelque chose aujourd'hui. Ne soyons pas toujours sur la défensive. Ne soyons pas toujours sur la défensive. Essayez vraiment. Quand il y a quelque chose, Seigneur, voilà, c'était moi. Je suis fautif. Tu es le Seigneur. C'est important d'accepter nos faiblesses. Sans dire, je fais quand même bien, non? Non. Simplement dire, Seigneur, c'est toi. C'est toi qui as le dernier mot, de toute façon. Accepter nos faiblesses. Accepter que nous fassions des fautes et que nous ne sommes pas infaillibles. Simplement dire, Seigneur, voilà, je viens, je n'ai pas d'excuses. Accepter que nous réagissons si souvent aux égoïstes, mais moi. Accepter la seigneurie, et ça c'est un mot que j'utilise jamais, mais je l'ai lu une fois quelque part, la seigneurie de notre Dieu et Seigneur. Que lui, il est le Seigneur, et pas nous. Et tous nos arguments, tous nos idées ne changent rien dans tout ça. Il est et il reste le Seigneur Dieu éternel. Avec Anne, je vous encourage de revoir les limites de votre engagement. Avec Dieu, je vous encourage de vivre votre vie fidèle sous le regard de votre Seigneur. Avec Samuel, je vous encourage d'apprendre à écouter. Et avec Élie, je vous encourage de baisser la porte de votre forteresse. Combien de fois on est cloîtré hein, derrière un immense mur hein, qui nous, où nous essayons de nous cacher derrière et que personne rentre là-dedans. Hein, parce que là, on est en sécurité. Là, personne ne peut nous dire quelque chose. Essayons d'abaisser cette porte pour laisser entrer le Seigneur. Il est le Seigneur. Il peut faire ce qui lui semble bon. Voilà, c'est mon partage pour aujourd'hui sur cet appel de Samuel.